l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
L'invité de Grand Sud FM aujourd'hui est Jean-Pierre Toujas. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Toujas, vous êtes Narbonnais de longue date. Vous habitez à Narbonne-Plage. Vous avez d'ailleurs, vous écrivez encore des articles pour le journal L'Indépendant sur Narbonne-Plage. Mais surtout, vous faites partie des gens qui régulièrement, enfin chaque année, évoquaient à Narbonne-Plage le souvenir Louis Madol. Ça va être le cas ce dimanche 27 août. Alors Louis Madol, je ne sais pas si beaucoup de Narbonnais le situent véritablement. Il m'a semblé intéressant justement, à propos de ce souvenir Louis Madol, de tracer un petit portrait de celui qui a été non seulement un des maires de Narbonne à l'époque de la Libération, à années 40, mais également le fondateur de Narbonne-Plage, Jean-Pierre Toujas. Alors vous étiez enfant à l'époque.
Alors j'étais enfant, mais par mes parents, j'ai connu Louis Madol très jeune. Et cet homme-là a eu une vision extraordinaire. Cette vision, elle vient de la Libération, c'est les fameuses 30 glorieuses qui vont commencer avec les congés payés. Et à partir de là, Louis Madol a pris cette balle au bon pour créer Narbonne-Plage, dans des conditions dantesques. Il faut savoir qu'au départ, Narbonne-Plage, c'est une lande qui fait 5 km de long, jonchée de joncs, de marécages, etc.
Une sorte de no man's land.
No man's land, totalement.
Et alors, si vous permettez, on m'a dit qu'il y a eu quelque chose qui existait au début des années 40, vous confirmez ?
Tout à fait. Alors, au début des années 40, ce sont des amis belges qui ont acheté la totalité de la lande, environ 300 hectares. Il faut savoir, entre parenthèses, ce qui est très important pour la suite de notre histoire, c'est qu'ils ont encore gardé 32 hectares années de falaise, ce qui est importantissime. Donc les Belges font un plan de la station, les Belges commencent à construire des villas somptueuses.
Donc, et ça, c'est 1941-42.
À peu près, 42-43.
Donc, voilà. En pleine guerre.
En pleine, voilà, 42-43.
Il faut le remarquer, oui.
Tout à fait. Et ils avaient même prévu, j'ai les plans, de construire un grand casino luxueux.
Mmh, oui. Bon. Donc, il y avait un grand projet.
Il y avait un immense projet.
Voilà. Et puis arrive l'occupation allemande de la zone sud,
Patrick. Voilà. Voilà. Et donc, après cette occupation, probablement vu les dépenses hors normes qu'ils n'avaient pas envisagées, ils lâchent l'affaire.
Et puis les Allemands ont occupé cette plage.
Alors, les Allemands ont occupé cette plage, et il restait, quand il y avait encore les Belges, et quand Louis Madol est arrivé, je vous dirai ça plus tard, deux bâtiments.
Oui.
L'ancienne colonie de vacances municipale qui servait de camp aux jeunes Allemands, et l'allée qu'on appelle des Vendangeurs, rue de Provence, où on logeait tous ces gens-là.
Voilà, donc ça c'est vraiment les prémices de la
Narbonne-Plage. Ah, c'est les prémices.
Après, les Allemands arrivent, ils repartent, et c'est la Libération, et c'est là qu'arrive Louis Madol.
Et c'est là qu'arrive Louis Madol.
Et avec ce que vous appelez sa vision.
Alors, c'est une vision extraordinaire. Et on a des hommes politiques qui n'ont pas de nez. Lui, il a senti tout de suite que c'était le gros coup. Pourquoi ?
Oui.
C'est très important. Parce qu'à Narbonne, il n'y avait rien comme industrie. Rien ne rapportait à la ville de Narbonne. Il n'y avait pas d'industrie.
Oui, donc il avait déjà une vision du développement du tourisme.
Tout à fait, du tourisme. Et donc il profite des congés de 36. Et il construit Narbonne-Plage.
Alors, il n'y avait rien à part les deux bâtiments.
Voilà, les deux bâtiments.
Qui restaient. Alors, comment il a procédé ? Je crois qu'il a attiré beaucoup de Narbonnais, d'après ce qu'on m'a dit, en offrant quasiment des terrains.
Alors, il a fait un immense loto en sonorisant tous les quartiers cinéma de Narbonne-Ville. Et le gagnant gagnait une villa.
Rien que ça.
Une villa. Je connais très bien le nom du premier propriétaire, et puis une autre à garder, etc. Et il y a eu en tout une dizaine de villas construites très près de l'avenue de la Méditerranée.
Oui, c'est-à-dire...
au centre-ville.
Le centre névralgique, un peu.
Auparavant, il avait déjà, par l'intermédiaire d'un de ses bras droits qui s'appelait René Funel, l'architecte de la ville, pris le plan des Belges, parce que les Belges avaient fait un plan.
Oui, on peut imaginer. Oui.
Et il a pris le plan des Belges et René Funel l'a amélioré pour construire le nouveau plan de Narbonne-Plage.
Donc voilà l'infrastructure.
Voilà, elle planifiée. Part de là.
Oui, voilà.
Elle part de là.
Et alors vous, paraît-il, quand vous étiez enfant, vos parents ont occupé une des premières maisons.
Alors, mes parents avaient une villa à Saint-Pierre qu'ils ont démolie, etc. Ils ont reconstruit une villa simple. Et ils ont, le Louis Madol leur a vendu, comme à beaucoup d'autres, le terrain à 1 franc le mètre carré. Je ne sais pas si vous imaginez avec l'euro ce que ça représente. Et je me souviens de Louis venant à la maison et dire à mon père, Fernand, quand même, tu pourras en acheter, tu as 3 enfants, achète au moins 3 terrains. Elle lui dit, non, je suis au chômage. Comment, il lui dit, Louis, tu es au chômage. Mais Louis, Fernand, je vais t'embaucher parce que c'est pas normal avec le travail que tu fais. Bon, enfin, soit. Et il achète cette villa, 6 sur 8, 48 francs.
Voilà, et c'est comme ça que finalement des gens
très modestes.
Ont pu s'installer.
Mais, comme Louis Madol était loin d'être bête, et qu'il était entrepreneur, et quand il a prévu Narbonne-Plage, il a prévu un côté pour, entre guillemets, les riches, et un côté, entre guillemets, les pauvres. Et ça, c'est très important, parce que les riches avaient leur clôture autour de la maison, et les pauvres n'y avaient pas droit.
Ah bon, il y avait quand même un distinguo déjà.
Il y avait un distinguo, mais ce distinguo était superbement pensé, parce que côté pauvre, c'était la convivialité était de mise entre tout le monde. Chose qui, en 72 ou 73, quand on a autorisé à faire les clôtures pour faire gagner de l'argent à la mairie, eh bien, la convivialité, elle est partie.
Oui, donc c'était une autre conception des choses.
Voilà.
Et alors, à propos de chômage, il n'y avait pas de route, évidemment, non. Pour y arriver. Paraît-il, il a fait appel à des chômeurs de
alors,
l'époque, Louis Madol.
La route, le PK0, il est facile à repérer. Il est sur la route d'Armissat. Et pour aller à Narbonne-Plage, on passait par Armissat.
Ah, il n'y avait pas du tout
Il n'y avait route. Pas du tout de route. Et il fallait en arriver par la route serpentée à travers la Clape, qui passait en bas de Camp Lazens, on arrivait au domaine de Ramade.
Mmh. Oui, pas très loin de l'Hospitalet.
Pas très loin de l'Hospitalet, à 500 mètres, en dessous de la base aérienne.
Voilà, pour situer les choses.
Donc Louis dit, il faut construire une route. Et comme Louis Madol avait des réseaux inimaginables, il connaît un copain architecte à Toulouse. Et ce garçon, il dit à ce garçon, voilà, tu me fais une route, mais je ne veux pas une autoroute. Tu me fais une route la plus belle possible dans ta pensée. Et il fait la route de Narbonne-Plage, qui part donc maintenant de la sortie de l'autoroute à Ramade.
Voilà,
pour faire le complément.
Par Mougins.
Par Mougins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne savent pas et ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas plus large. Plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, Francis Valls, qui va lui succéder, prend, avant de partir, un arrêté essentiel en classant la Clape zone classée. On n'a plus le droit de dépasser la route de 50 cm, c'est interdit.
C'est un monument historique.
C'est un monument. Donc on n'a plus le droit de faire ça. Et donc cette route a été construite par 500 chômeurs, dont mon grand-père, maternelles, qui ont travaillé au pic, à la pelle, pour construire ce truc, cette chose-là. Et il n'y avait que des wagonnets, des petites locomotives comme dans les mines. Il y avait des chevaux. Et tout ça a été fait dans les règles de l'art.
Voilà, enfin, vous voyez ce côté tout anecdotique que beaucoup de Narbonnais ignorent. Merci en tout cas, Jean-Pierre Toujache, pour ce témoignage sur la façon dont ce maire, d'une part, a exercé son mandat de maire, a fondé cette station et d'une manière avec, vous le dites, d'une manière assez un petit peu folklorique de temps en temps et avec les moyens du bord de l'époque.
De l'époque.
Alors ça explique pourquoi tous les ans, un certain nombre de Narbonnais se réunissent sur l'avenue Louis Madol, à la stèle Louis Madol, pour célébrer le souvenir de Louis Madol. Merci Jean-Pierre Toujache.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.